Le journal de l'économie avec Charles Bonner.
Il est 6h47, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres après l'échec sur les négociations sur l'emploi des seniors. Syndicats et patronats se rejettent la faute et le gouvernement s'en frotte les mains. Le gouvernement qui justement présente sa nouvelle trajectoire de déficit public. Et puis les entreprises contournent France Travail pour recruter. La négociation devait se terminer lundi, finalement prolongée hier pour aboutir un échec. Négociation entre syndicats et patronats sur l'emploi des seniors et la formation tout au long de la carrière. Au milieu de la nuit, les syndicats ont donné le ton. Les instances de Force ouvrière et de la CFDT devraient formellement rejeter l'accord aujourd'hui ou demain. Bonjour Bernard Vivier.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail. Alors les syndicats parlent d'un texte qui ne crée aucun nouveau droit pour les salariés. Les deux visions avec celle du patronat étaient donc trop éloignées?
Oui, les deux visions étaient trop éloignées sur un champ de négociation qui pourtant était lui-même très étroit. Cette négociation avait été lancée en décembre dernier, une phase d'abord de diagnostic en janvier, et puis la négociation proprement dite qui devait s'achever le 26 mars et qui s'est achevée le 9 avril, hier, par un échec. Les organisations syndicales ont eu à négocier sous pression et c'est là probablement la principale leçon de cet échec. Les partenaires sociaux n'étaient pas véritablement libres. Ils avaient l'injonction de négocier dans un délai rapprochés et sur des objectifs à atteindre qui étaient déjà prédéfinis par la puissance publique.
Et quelles peuvent être les conséquences de cet échec désormais ?
Les conséquences de l'échec, c'est premièrement un effritement de la relation de la confiance entre patronat et syndicats. Les syndicats sont eux-mêmes déjà bien affaiblis dans l'image publique. Et puis surtout, un grand sentiment de brouillard dans la maîtrise des grands équilibres sociaux. Le gouvernement a une préoccupation, nous le savons. Bercy, le ministère de l'économie et des finances, doit trouver au moins 50 milliards d'euros d'économies d'ici à 2027. Et les comptes excédentaires, parce qu'ils sont bien gérés, de l'assurance chômage, des retraites complémentaires, de l'UNEDIC et de l'AGIRC-ARRCO, brillent bien aux yeux de Bercy qui dit « voilà beaucoup d'argent qui me sera très utile ». Et donc concrètement, nous voyons aujourd'hui des négociateurs patronaux et syndicaux en suspension, sous pression, en difficulté d'être des acteurs et aussi de se saisir de leurs propres responsabilités.
C'est donc le gouvernement qui va garder la main sur l'assurance chômage?
Oui, et aujourd'hui, nous avons un modèle social français qui est à un tournant entre assistance, solidarité, assurance, on pense notamment à tout ce qui est retraite complémentaire ou prévoyance, et bien la répartition des rôles entre l'État et les partenaires sociaux se cherche une grammaire nouvelle, mais cette grammaire, elle est aujourd'hui rédigée par la puissance politique.
Merci Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur du travail, l'invité ce matin du journal de l'économie. D'ordinaire, ce sont des chiffres qui n'intéressent que les passionnés de finances publiques. Ils s'invitent désormais dans le débat politique. Les chiffres du déficit, moins bon que prévu en 2023. Éric Mauban, il ne devrait pas s'améliorer cette année selon la projection du gouvernement.
Elle a été dévoilée hier avec un objectif de déficit budgétaire 2024 proche de 5 à 5,1% contre 4,4% précédemment annoncé. Pour 2025, l'ambition du gouvernement est de ramener ce chiffre à 4,1% contre 3,7% annoncé précédemment. Telle est la feuille de route qui sera présentée mercredi prochain au Conseil des ministres, puis envoyée à Bruxelles. Reste maintenant à savoir quels vont être les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Le plan d'économie de 10 milliards d'euros dévoilé en février s'avère d'ores et déjà insuffisant. De nouveaux coups de rabot sur les dépenses publiques sont à prévoir, car le gouvernement a la ferme intention de ne pas augmenter les impôts. Au sein même de la majorité présidentielle, les avis divergent sur les économies à réaliser. Un projet de loi de finances rectificative est considéré comme politique dangereux. La voie choisie pour limiter la dérive des comptes publics passerait donc par un renforcement de la taxe sur les profits des énergéticiens et un gel de certaines dépenses sociales.
Et pour les économies, tout le monde doit s'y mettre, notamment les collectivités locales, reçues hier par le ministre de l'économie, qui estiment de leur côté avoir déjà largement donné. Une autre réunion sous tension qui s'est tenue hier, la concertation sur la réforme de la fonction publique menée par le ministre Stanislas Guérini, qui estime ce matin dans Le Parisien qu'il faut mettre fin au tabou du licenciement des fonctionnaires. Cela concernait en 2022 moins de 250 personnes. Le nom a beau changer, le constat, c'est l'inefficacité. La NPE, devenue Pôle emploi, devenue France Travail, ne propose pas de profil adapté aux entreprises qui veulent recruter. C'est ce qui ressort d'une enquête du cabinet SIA Partners. Un quart seulement des embauches se font via France Travail, Zoé Pallier.
L'entreprise Migène recherche des techniciens. Sur 70 salariés, 10 postes sont à pourvoir, s'alarme Loïc Steller, responsable ressources humaines.
France Travail nous a proposé des candidats qui provenaient des secteurs du bâtiment, des secteurs tertiaires. Or, nous recrutons exclusivement des profils issus de l'industrie.
Pour recruter, l'entreprise préfère donc passer par des chasseurs de tête, stratégie plus coûteuse mais souvent plus efficace. Aujourd'hui, seul un recruteur sur 5 consulte les profils de candidats sur le site de France Travail, révèle l'enquête du cabinet SIA Partners, Marc Landré, son co-auteur.
Dans l'esprit de beaucoup d'entreprises, les personnes dont dispose en base France Travail sont des gens qui sont relativement éloignés du marché du travail, qui n'ont pas forcément les savoir-être professionnels pour pouvoir se réinsérer dans la vie active. Et donc, le fait de dire « je suis passé par France Travail », ça me renvoie de moi à une image de quelqu'un qui va chez France Travail pour trouver ses recrutements parce que personne ne veut travailler dans cette entreprise.
Pour casser cette image, France Travail promet de renforcer son action de terrain et va envoyer des conseillers dans les entreprises. Autre piste, celle de l'intelligence artificielle qui permet, grâce aux bases de données, de proposer des profils plus adéquats aux recruteurs.
Les explications de Zoé Pallier. Dans la tempête que traverse Atos, le gouvernement protège les supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire avec l'investissement de 50 millions d'euros pour avoir une action avec des droits privilégiés sur Boule SA. C'est cette filiale spécialisée en sécurité. Pour le moment, Atos a présenté son plan de financement alors que la reprise n'est pas encore décidée. Un chef d'entreprise est sur les rangs depuis plusieurs années. C'est David Layani, le président de OnePoint. Son portrait par Céline Cajoulis.
Souvent décrit comme un nouveau Bernard Tapie, David Layani est un chef d'entreprise qui s'est fait seul. Il ne sort pas d'une grande école, quitte le lycée avant le bac, mais son goût pour les maths, son bagou et son entregent lui permettent de créer à seulement 20 ans OnePoint, une société de services informatiques, devenue depuis une société de services numériques. L'entreprise a grossi par croissance externe jusqu'à atteindre les 3000 salariés. Son ambition, certains disent son besoin de revanche sociale, son culot, son habitude d'acheter les entreprises à la barre du tribunal de commerce, en font un personnage à part parmi les dirigeants français. Depuis 3 ans, il a multiplié les approches pour reprendre Atos. Il en détient d'ailleurs un peu plus de 10%. Et son rêve, pour ne pas dire son obsession, c'est d'en faire l'Airbus de la cybersécurité, du digital et de l'intelligence artificielle. Mais il veut surtout créer un nouveau géant aux côtés de Capgemini et d'Accenture. Cet ancien joueur de polo, admirateur de Vincent Bolloré, célèbre pour ses Red Bulls, a joué un rôle non négligeable dans la succession à la tête du groupe Barrière et aime bien fréquenter le monde politique. On le dit proche d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin, mais son amitié avec Nicolas Sarkozy lui a valu une mise en examen dans l'affaire Takieddine. Et même s'il se présente aujourd'hui comme le seul repreneur français pour les activités les plus sensibles d'Atos, il n'en reste pas moins que ses financements sont étrangers.
Céline Cajoulis, Boeing, une nouvelle fois sous le coup d'une enquête du régulateur américain sur la conception des Boeing 787 Dreamliner et du 777. Un employé de l'avionneur a rapporté sur des informations sur une structure défaillante. Les marchés financiers, le CAC était en baisse hier, moins 0,86%. Aux États-Unis, on est proche de l'équilibre. Seul le Nasdaq gagne 0,32%. À Tokyo, ce matin, le Nikkei je vérifie, à moins 0,27%. L'euro à 1,08$. Le baril de Brent de la mer du Nord à 89,45$. Une bonne nouvelle pour les aspirants propriétaires, les taux recule pour la première fois depuis 2 ans. Ils étaient à 4,35% sur 20 ans en novembre dernier. Ils sont désormais à 3,85%. Les courtiers espèrent même 3,5% à l'été, alors que dans le même temps, la commission des finances de l'Assemblée nationale examine une proposition de loi pour rendre facultative la règle de l'endettement maximum de 35%. Alors à qui cela peut-il profiter? Maëlle Bernier est la porte-parole de Meilleur Taux.
à la fois aux primo-accédants, les plus jeunes, dont on sait que les revenus sont évolutifs, même si au début c'est pas très élevé, mais qu'on sait que ça augmente très vite. Évidemment aussi aux acheteurs de résidences secondaires, mais à tous ceux qui sont un peu limites, mais dont les revenus vont évoluer, et également aux petits investisseurs locatifs qui ont déjà un crédit immobilier sur la résidence principale et qui sont aujourd'hui bloqués par cette règle très stricte de 35% d'endettement. Les banques, elles prêtent, pas corrige, elles prêtent de manière à ce que le remboursement soit assumé et assumable par la personne qui fait son crédit.
Maëlle Bernier, la porte-parole de Meilleur Taux dans le journal de l'économie. Il est 6h57. Dans un instant, la météo et puis François Geffrier.